amis du polar et du roman noir, bonsoir. Bienvenue sur Onde Noire, l'émission polar, donc la plus rock de la bande FM.
Bonjour Jacques.
Bonjour Corinne.
Eh bien, des coups de cœur, des amis qui vont nous parler de BD, de leurs coups de cœur. Voilà, c'est un petit peu le programme de l'émission. Et puis au départ, je voudrais insister sur une jolie petite manifestation qui a lieu ce week-end à Aix-en-Provence. Quand je dis petit, c'est parce que ça se passe sur seulement deux soirées. C'est pas un festival qui se passe sur toute la journée. C'est Polar et Jazz à Aix-en-Provence. C'est au centre social Les Amandiers, vers le Jazz de Bouffant. Donc ça vous fait à peine deux heures de route. Et le vendredi soir, donc il y a une soirée spéciale humour, humeur noire, qui est animée par la Noiraude. Et on vous offre l'apéro et on vous offre à manger. Et le lendemain soir, une très belle soirée avec l'écrivain qui représente peut-être le plus la musique et l'écriture musicale en France, c'est Marc Villard, qui sera accompagné d'un bassiste. Hein, puisqu'il joue, Éric Le Cardinal joue à la fois de la basse et de la guitare. Voilà, et donc pour une soirée où les mots se mêleront aux notes. Et là aussi, on vous offrira l'apéro. Donc voilà, tous les renseignements, vous tapez Jazz et Polar à Aix-en-Provence et vous avez les renseignements sur Internet. Voilà Jacques, alors on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé partout, tout le temps, des élections américaines et il y a un auteur qui éclaire bien la société américaine.
Voilà, bah vous l'avez probablement vu à la télé en ces périodes d'élection.
Oui, parce qu'ils l'ont pas mal interrogé, voilà, parce qu'il habite en France.
Il fait un peu office de consultant américain. Donc, cet auteur, c'est Jake Lamar. Le livre dont on va parler, ça s'appelle « Confession au pluriel d'un fils modèle ». Il est paru chez Rivage, en poche, 8,15 €. Il est traduit par Madame Françoise Bouillet. Donc, je disais qu'on le voit pas mal à la télé en ce moment. Et donc là,
il est noir comme Barack Obama, voilà. Mais on peut pas le confondre. Hein.
Non, c'est « Confession d'un fils modèle », en fait, c'est la réédition en poche donc de son premier roman paru aux États-Unis dans les années 90. Et ce fils modèle, c'est lui, Jake Lamar, noir américain, diplômé de Harvard, tout comme d'ailleurs Michel et Barack Obama, il est noir comme eux. Et Jake Lamar, lui, il est, au moment où il écrit ce roman, il est journaliste au Times Magazine, donc ce qui est quand même pas rien aux États-Unis. Et il essaye de se faire une place dans cette société américaine. Et donc, c'est pas vraiment un roman, c'est pas tout à fait une autobiographie. Une autobiographie, c'est lui, il dit même un travail de mémoire. Donc, il y a des noms qu'il a changés, mais sinon, c'est son histoire à lui, celle de son père. Et on retrouve, c'est ça essentiellement qui fait la force de ce texte, c'est une de ses préoccupations majeures qu'on retrouve dans ses deux premiers polars aussi. C'est-à-dire, comment peut-on réussir aux États-Unis à s'intégrer quand on est un noir américain ?
Qui est quand même aujourd'hui une bonne question à se poser.
Ben voilà. Et s'intégrer, sans devenir un noir blanc, façon copie carbone, si j'ose dire, ou...
Copie carbone, ça doit pas éclaircir le noir, mais bon.
Ou comment, sans devenir non plus la caricature du noir, avec la casquette et le pantalon, la casquette à l'envers, le pantalon baggy. Lui, Jake Lamar, une de ses réponses, en fait, c'est qu'il vit en France depuis 93, donc c'est peut-être que l'intégration aux États-Unis n'est pas forcément, l'assimilation, la vie comme ça pour un noir américain n'est pas forcément si aisée que ça.
Ah, oui.
Et voilà une petite phrase qu'il dit lui-même en page 16, c'est un de ses copains qui lui dit « Tu sais ce que c'est ton problème, Jake ?» me dit un jour un de ses amis noirs. Donc, « Tu es trop blanc pour les noirs et trop noir pour les blancs. » Je commençais à m'interroger « Étais-je une sorte de monstre ?»
Ce qui est très étonnant, c'est qu'il me semble bien avoir entendu à peu près la même phrase pour le président actuel des États-Unis. Donc, des États-Unis, puisque tu parles de Jake Lamar, moi je voudrais quand même rappeler qu'il y a... On vous parle de d'autres facettes des États-Unis. Je vous rappelle que en ce début de saison, on vous a parlé d'un formidable roman qui s'appelle Le Monde à l'endroit de Ron Rash, qui est publié au Seuil. Qui a pas si longtemps, on a parlé de Pike, de Benjamin Whitner. Et dans pas longtemps, on vous parlera aussi d'un autre excellent roman de William Gay. C'est une autre façon de voir les États-Unis, de voir les losers et de voir justement pas l'American Dream, de voir l'Amérique profonde. Et ce sont des romans qui éclairent les États-Unis d'une manière très très différente.
Ah, là, dans Jake Lamar, c'est pas des losers parce que il a réussi, il est diplômé de l'université et tout, mais n'empêche que l'intégration n'est pas forcément aussi évidente qu'elle semble l'être.
Alors, on va...
Un autre roman.
Voilà.
Qui se passe aux États-Unis, plus ou moins?
Tout à fait, parce que c'est ce que j'allais dire. On change complètement de sujet, mais pas vraiment. Puisqu'on va parler, dans le roman Ciseaux, de Raymond Carver, qui est un écrivain américain bien connu. Donc Ciseaux, c'est le titre du roman. C'est publié chez Fayard, et l'auteur en est Stéphane Michaka. Raymond Carver, on va le resituer quand même. On a dit que c'était un jeu de mots, c'est un sculpteur de mots. Carver, hein, c'est le sculpteur, sculpteur de phrases. C'est un des écrivains qu'on cite en exemple pour ses nouvelles très brèves, ses fulgurances, pour ses, comme on l'a vu aussi dans un film, ses shortcuts. Certains critiques ont même évoqué une écriture au couteau. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, on s'est rendu compte quand... aux éditions de l'Olivier, on a eu les textes originaux de ses premières nouvelles, que c'était beaucoup plus long, et que finalement, il s'était passé quelque chose entre l'écriture de Raymond Carver et la publication de ses nouvelles. Ben, c'est pas un couteau qui s'est passé, mais bien les ciseaux de Gordon Lish, qui était à l'époque l'éditeur de Carver, qui en a édité beaucoup d'autres, et Gordon Lish, il a coupé, rogné, réduit les phrases et les récits du nouvelliste. Est-ce que Raymond Carver eût été aussi célèbre si Gordon Lish n'avait pas abondamment restreint et contraint l'écrivain américain? Ou bien était-ce un crime de lèse-majesté que de vouloir modeler à ce point l'écriture de ce qu'on pensait être ce génial écrivain américain? Donc, dans ce roman, Stéphane Michaka met Raymond, il ne dit pas Carver, mais Raymond, face à Douglas. On reconnaît bien Gordon Lish sous les traits de Douglas. Et ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'il prétend certainement pas répondre à cette question. C'est tant mieux, parce que le récit qu'il nous livre à 3 puis à 4 voix est d'autant plus intéressant, même, on peut dire, subjugant. La première voix, donc, c'est celle de l'écrivain, de Raymond, qui espère, au moment où Stéphane Michaka le met en scène, comme tant d'autres, devenir un écrivain célèbre. Deuxième voix, en face, Douglas, l'éditeur, qui enrage et qui doit coûte que coûte sortir son magazine et couper, rogner, comme je disais, dans les textes des écrivains qu'il reçoit. Au milieu de ces deux personnages, la troisième voix, c'est Marianne, la femme de Carver, une amoureuse, une mère capable de se sacrifier pour son ivrogne de mari, qui va y perdre ses espoirs et quelque part sa vie. Non pas qu'elle meure des excès de Raymond Carver, mais de la vie qu'elle aurait pu mener. En quatrième voie, à la fin, intervient Joanne, la poétesse qui sera la dernière compagne de Carver. Et dans la véritable vie, elle s'appelait Tess Gallagher. Voilà. Moi, je trouve que c'est un roman absolument superbe parce que Stéphane Michaka n'a pas porté son attention sur les affres d'un romancier qui doit obéir ou pas à un éditeur, ce qu'il aurait pu faire lui-même en tant qu'écrivain, se poser la question, mais il relate tout simplement la vie d'être humain. L'éternel écrivain a compris, certes, Raymond, Douglas, l'éditeur mal aimé, et qui est mal à l'aise, qui se pose des questions lui aussi. Il y a Marianne, belle, intelligente et liée irréversiblement à son mari, mais... À travers ces affrontements, plutôt qu'un problème littéraire, c'est tout simplement un roman d'amour. Et un magnifique roman d'amour qui transparaît et qui lie tous ces personnages. Et c'est le vrai sujet du roman. C'est la passion, la violence des sentiments qui animent chacun des personnages qui est intéressant à capter, et non pas les échanges techniques entre un écrivain et son éditeur. Alors vous allez me dire, on est peut-être un petit peu loin du roman noir. Ben non. C'est un roman qui est éclairé, je dirais, c'est un petit peu un oxymore, mais qui est éclairé d'une noirceur type roman noir américain. Et puis, il y a l'écriture de Stéphane Michaka qui donne vraiment une ampleur dans les sentiments de ces personnages qui est absolument magnifique. Et puis, il y a aussi l'idée que Stéphane Michaka, ben, on l'a découvert avec un très beau roman noir, La fille de Carnegie, qui était chez Rivage Noir. Voilà, donc on n'est pas si loin du noir que ça.
J'aime bien quand tu fais des phrases oxymoresques.
Oxymoresques, c'est peut-être
comme on dit dans les bars à Marseille.
Comme on dit dans les bars à Marseille, oui. Voilà, un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, alors avec un presque, j'allais dire, un revenant, parce que bon, ça fait 10 ans qu'il n'avait pas fait un aussi bon disque. Et là, il a sorti un double album absolument exceptionnel. Cet homme-là, c'est Neil Young, avec son groupe The Crazy Horse. Et la chanson que nous allons écouter s'appelle Ramada Inn. On aurait pu encore l'écouter. De toute façon, la chanson fait 16 minutes, donc elle nous aurait quand même bouffé une grande partie de l'émission. Donc malheureusement, on va la couper maintenant. Mais vous n'hésitez pas à aller acheter le disque chez un vrai disquaire et pas en mode dégradé chez les vendeurs en ligne. Et maintenant...
Par un enchaînement subtil.
Voilà, nous allons parler d'un roman qui se passe en France, d'un roman d'un monsieur qui s'appelle Alex Déniger. Le roman s'appelle I Corsini. Il est publié à la Série Noire.
Et chez donc, Gallimard.
Chez Gallimard, pardon. Voilà. Donc, c'est Corsini, en fait, un Corsinu, des Corsini, je suppose. C'est en fait, au départ, une race de chiens corses, des chiens de berger. En fait, dans ce roman, des chiens, il n'y en aura pas beaucoup. Des Corsini, il y en aura, mais bon, de là assimiler les Corses à cette race de chiens fidèles attachés à leur territoire, même l'auteur n'ose pas vraiment aller jusque-là. Donc, en fait, c'est une petite intro pour vous expliquer le titre et pour vous dire que le roman va se situer en Corse.
De toute façon, quand on a vu la couverture avec...
Oui, seulement
tête.
À la radio, ils ne peuvent pas la voir, vraiment.
Effectivement, oui.
Sur la radio, il y a effectivement une tête...
Non, sur la radio, il n'y a rien
non,
du
sur la
tout,
radio, mais sur la couverture, il y a la tête de mort du drapeau corse, enfin, du symbole de la Corse. Donc, en fait, des romans noirs en français, ça se passe plutôt généralement à Paris ou en banlieue, encore parfois à Marseille, mais assez rarement en Corse.
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Et quand il se passe en Corse, c'est plutôt de façon anecdotique, voire presque exotique. En tous les cas, des polars qui traitent de la situation politique de cette île, il n'y en a pas beaucoup, de cette région même. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un roman multivoque. Il y a les flics et les nationalistes. Mais il y a deux voix essentiellement qui sortent, qui ressortent particulièrement. La première, c'est Hervé. Il est flic d'ARG, chef du groupe sur la zone d'Ajaccio. Et on sent très bien que c'est un double littéraire, comme je dis souvent, l'espèce de Madame Bovary, de l'auteur Alex Dénigé, qui est lui-même, qui a été longtemps flic à l'antiterroriste en Corse, antiterrorisme pardon, en Corse, et sûrement ailleurs.
Est-ce qu'il y a des terroristes en Corse ?
Ben, disons que, en tous les cas, il y était pour ça. Et l'autre voix, c'est celle de François, prof de fac à Corté et chef de file d'une mouvance nationaliste en Corse du Sud. En langue mouvance nationaliste, certains disent terroriste. Et on va assister donc pendant le roman à une guéguerre pourtant mortelle, entre les nationalistes, souvent appelés les nationaux, prétendument purs et durs, et les voyous. Alors les voyous, c'est les truands classiques, qui possèdent les bars, les boîtes et les pizzerias et qui veulent garder leur mainmise sur leur territoire, leur zone de chalandise. La zone de chalandise ici, c'est Ajaccio et ses grands alentours. Et cette guerre, en fait, va se faire sous l'œil, disons, goguenard, de ce que l'auteur appelle les nationaux voyous, c'est-à-dire, en fait, des gens qui sont entre eux, les nationalistes et les voyous, en fait, et qui ont bien compris qu'en étant nationalistes, leur intérêt, c'était plutôt d'être voyous, en fait, donc de récupérer tous les impôts, etc.
Ou pour, c'est peut-être des voyous qui se sont crimés en nationalistes aussi.
Voilà. Et les flics, quant à eux, en fait, ils sont là, ils traquent, ils surveillent les nationalistes, ils surveillent les voyous, et ils essayent de limiter la casse avec le peu de moyens qu'ils ont. Ça, du moins, c'est la théorie de l'auteur. On sent très bien que Alex Dénigé, donc, a été sur place, ça c'est très net, le récit est documenté, les dialogues sont très percutants. J'ai un peu l'impression qu'il abuse quand même des expressions corses pour faire authentique, mais bon, peut-être qu'on les utilise vraiment comme ça. Les scènes d'action sont très réalistes et vachement bien foutues, si j'ose dire. Il y a vraiment du vécu. Le point de vue du flic est très très bien rendu, même si on compare avec certains autres romans, genre les romans de Pierre Giorgio Di Cara, qui est lui aussi flic à l'antiterroriste
dans une île, puisque lui est en Sicile.
Il y a nettement moins d'empathie avec les personnages, aussi bien les flics que les truands. Ça reste beaucoup plus froid dans ce roman. Et il y a aussi la thèse qui est défendue par l'auteur ici. Elle est plutôt univoque. Donc, c'est les nationalistes sont en grande majorité corrompus jusqu'à la moelle. Ils sont concernés beaucoup plus par leurs intérêts financiers et politiques, beaucoup plus enclins à ménager leur précaré que d'améliorer la situation et de faire le bonheur des habitants qu'ils prétendent représenter.
Ce qui serait c'est un point de vue.
Ça, c'est le point de vue. Oui, donc ça, je c'est un peu le point de vue qui est de ce roman de Alex Dénigé qui est flic. Maintenant, c'est sûr que ça serait bien d'avoir le point de vue de...
Ah, peut-être qu'il va y avoir un droit de réponse à la série noire.
Peut-être, on sait jamais. Mais par contre, c'est vraiment un roman, outre qu'il nous raconte bien l'histoire de la Corse, c'est un roman passionnant qui se lit d'une traite et qui a l'avantage au moins de faire poser les questions. C'est pas si souvent que ça, sur la Corse.
Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Donc on rappelle le titre, I Corsini.
I Corsini, de Alex Dénigé à la série noire de Gallimard.
Ah, bye bye, à tout de suite.